On est dans les oreilles loin du front et on se retrouve pour le dossier de cette semaine consacré au conflit du travail, Pierre.
Oui, parce qu'on est avec Jérôme Pélisse qui, avec quatre autres de ses collègues, publie « La lutte continue, les conflits du travail dans la France contemporaine ». Et c'est un article et un livre qui est publié aux éditions du Croquant. On peut peut-être dire deux mots du projet de ce livre-là et peut-être ça s'insère plus largement dans qu'est-ce que c'est que le mouvement ouvrier aujourd'hui ou qu'est-ce que c'est que le mouvement ouvrier depuis 20 ans. On a été abreuvé d'un discours en disant « il n'y a plus d'ouvriers ». Il n'y a plus de mouvement ouvrier et finalement les conflits du travail tendent à disparaître si ce n'est dans quelques micro-secteurs comme les transports parce que c'est des fonctionnaires. Et en gros, votre livre tente de redresser un petit peu la barre sur quelle est la réalité des conflits sociaux depuis 20 ou 30 ans.
Oui, bonjour, merci de m'avoir invité dans cette émission. Effectivement, il s'inscrit dans un contexte, cet ouvrage, dont le titre comporte un point d'interrogation malgré tout. C'est « La lutte continue ». Je préfère rectifier un peu les choses parce que même si évidemment on va essayer de répondre à cette question et en réalité on y répond positivement, on pouvait bien se poser la question au vu de ce que effectivement vous avez rappelé, même si on est quand même dans une semaine où il y a beaucoup de conflits et même si les conflits ne concernent pas que le mouvement ouvrier. On a effectivement assimilé pendant très longtemps les conflits du travail et en particulier la grève avec le mouvement ouvrier, les syndicats ouvriers et c'est pour ça qu'avec la diminution du nombre d'ouvriers, tel que le constatent les enquêtes statistiques, et aussi la diminution du nombre de jours de grève, tel que le constatait le principal indicateur statistique employé à l'époque, qui aujourd'hui est rendu caduque, c'est ce qu'on parlait des jours individuels non travaillés pour fait de grève, eh bien ces JINT, ces jours individuels non travaillés pour fait de grève, eh bien on avait constaté un recul très important entre les années 70 et les années 80-90 et aujourd'hui. Et donc c'était le principal indicateur qui permettait de justifier le fait que les conflits auraient disparu. Et donc effectivement, à partir d'autres données, d'autres types d'enquêtes, et en revenant aussi sur cet indicateur lui-même et en proposant une critique raisonnée, on a essayé de montrer que de répondre positivement au titre de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'effectivement les conflits du travail dans la France contemporaine non seulement existent encore, mais ils auraient même plutôt tendance à augmenter ces dernières années.
Alors justement, sur quel type de données est-ce que vous pouvez vous appuyer pour redresser cette barre ?
Alors en fait, on s'appuie principalement dans l'ouvrage sur une enquête dont c'est la troisième édition qui s'appelle l'enquête Réponse, hein, relations professionnelles et négociations en entreprise. L'acronyme a été construit de cette manière-là. Cette enquête, c'est la troisième édition, elle s'est déroulée en 2005 et elle porte à chaque fois sur les trois années précédentes, donc 2002, 2003, 2004. C'est la troisième édition puisqu'elle a été initiée par le ministère du Travail en 1993. Il y a une seconde édition en 1998 et une troisième édition donc en 2005. Et donc on s'appuie principalement sur ces enquêtes qui s'adressent aux directions d'entreprise, mais également aux syndicalistes et aux représentants du personnel, ainsi qu'aux salariés, et qui donc a l'avantage, premier avantage, puisqu'il y en a d'autres, c'est celui de permettre un croisement des points de vue et donc de ne pas se limiter aux seuls chiffres qui étaient construits à partir des journées individuelles non travaillées, puisque ces chiffres, ils étaient construits à partir des déclarations des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. C'était eux qui étaient chargés de faire des fiches de conflits pour chaque conflit dont ils avaient la connaissance. Ils construisaient des fiches qui étaient remontées au niveau donc départemental, puis régional et national. Et on en construisait en fait une série qui permettait de suivre l'évolution dans le temps des conflits ou plus exactement des grèves. Et c'est à partir de cet indicateur qu'on en a conclu à la disparition du conflit en France, puisqu'on est passé un peu de plus de 3 millions de JINT dans les années 70 en moyenne à 250 000 à 500 000 selon les années, dans les années 90 et 2000.
Alors en gros, on y reviendra peut-être dans le détail, mais en gros, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une modification du type de conflit, il y a une modification de la durée, il y a réellement au début des années 80 la quasi-disparition, enfin la réduction à peau de chagrin des formes de conflits classiques, grève, occupation, etc.
Voilà, alors effectivement, comme je l'ai un peu laissé entendre assez lourdement, les jeans, ils s'intéressent uniquement aux grèves. Or, le conflit ne se réduit pas à la grève. Bien entendu, c'en est peut-être la forme la plus paroxystique, mais il y a évidemment bien d'autres formes de conflits. Et un des intérêts de cette enquête réponse, c'est de saisir, en tout cas d'interroger donc les acteurs de l'entreprise sur l'éventualité d'autres formes de conflits. Et en particulier, on distingue les grèves longues, les grèves de plus de 2 jours, en réalité, qui sont probablement celles qui sont le plus facilement connues des inspecteurs du travail. Et on les distingue de grèves plus courtes, donc des grèves de moins de 2 jours. Et on distingue également les débrayages. Les débrayages, ce sont des arrêts de travail de quelques heures qui durent moins d'une journée et sur lesquels, effectivement, les inspecteurs du travail ont généralement peu de prise, peu de connaissance de ces conflits parce qu'ils durent peu longtemps et qu'ils ne sont pas au courant de tout. Il faut rappeler qu'il y a à peu près 800 inspecteurs du travail en France. Il y en a, si on compte les contrôleurs du travail qui s'intéressent, qui s'occupent des entreprises de moins de 50 salariés, ça fait un peu plus, mais il y a quand même extrêmement peu d'agents de contrôle de la réglementation du temps de travail chargés donc de faire état de cette conflictualité. Donc effectivement, en prenant en compte ces formes plus moins longues, moins repérables par les inspecteurs du travail, on pourrait s'interroger sur éventuellement un maintien ou une recrudescence des conflits courts, par exemple. Effectivement, ce que permet de montrer l'enquête, c'est qu'il y a une forme de conflit qui recule entre les 2 dernières périodes de l'enquête, qui sont celles sur lesquelles on s'est concentré, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, entre 1998 et 2004. Eh bien, effectivement, il y a une forme de conflit qui recule, ce sont les grèves de plus de 2 jours. Elles reculent un peu, pas énormément, mais elles reculent un peu. Et elle ne permet pas, malgré tout, d'expliquer le recul des JINT, puisque entre ces 2 périodes, on a eu un recul, encore une fois, assez important des JINT. Et donc, ça montre bien que cet indicateur des JINT, il était plus très bon, à tel point que la DARES, le ministère du Travail, qui a initié cette enquête réponse et qui collectait ces JINT, a renoncé à cet indicateur statistique à partir de 2006 et désormais le remplace par une autre modalité d'enquête. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pas non plus l'enquête réponse, puisque l'enquête réponse, elle est ponctuelle. Mais tous les ans, maintenant, on a d'autres modes d'interrogation des conflits et qui permettent de saisir un peu mieux cette conflictualité par arrêt de travail, en prenant en compte en particulier donc les débrayages ou les conflits courts. En même temps, effectivement, votre question, elle incite à penser qu'il y a eu des transformations dans la conflictualité. Et effectivement, ce que montre l'enquête réponse, et donc les 2 dernières éditions, c'est que les formes de conflits qui ont le plus augmenté, ce sont les formes sans arrêt de travail. Alors, quelles sont ces formes sans arrêt de travail ? Eh bien, l'enquête en distingue plusieurs. On peut distinguer des formes qu'on appelle encore grèves, mais il ne s'agit pas vraiment d'arrêt de travail. Ce sont des grèves perlées. Des grèves du zèle. Les grèves du zèle, c'est quand on se met à appliquer strictement les consignes et du coup, ça ralentit complètement le travail. Une grève perlée, c'est quand, au contraire, on se met plutôt à ralentir, mais pas vraiment en s'arrêtant de travailler. Surtout, l'enquête distingue 3 autres grandes formes de conflits sans arrêt de travail, qui sont les pétitions, les manifestations et les refus d'heures supplémentaires. Forme un peu ambiguë, mais qui est particulièrement intéressante dans une période où on a vu la mise en place des 35 heures, en 98, ça commence, et puis en 2004, où au contraire, le processus a démarré et puis a été gelé à peu près à mi-parcours à partir de 2002. Donc effectivement, les formes qui augmentent le plus, ce sont les formes sans arrêt de travail. Donc il y a bien une transformation de la conflictualité, mais elle n'explique pas vraiment la mauvaise qualité de cet indicateur. Et ce qui est très intéressant, c'est que un des chargés de mission de recherche à la DARES, au ministère du Travail, a travaillé spécifiquement sur toutes les données disponibles concernant les conflits et en particulier les grèves. Et il a montré, donc c'est quelque chose d'intéressant, c'est paru simplement cet été, que les JINT, en fait, la manière dont ils étaient construits, eh bien, souvent on pouvait dire, ils sous-évaluent le nombre de conflits, le niveau de la conflictualité, mais la tendance est vraie. Et c'est aussi là-dessus qu'on se basait pour dire que le nombre de conflits et la conflictualité diminuaient. Et ce qu'il a montré très clairement et de manière extrêmement convaincante, c'est que dans les années, à partir des années 90, eh bien, les débrayages et les grèves courtes augmentent considérablement au détriment des grèves plus longues. Autrement dit, la tendance elle-même peut être remise en cause à partir des années 90 et 2000. Et c'est aussi ce que confirme d'une autre manière cette enquête, puisque d'une autre manière, puisque c'est autre chose qu'on regarde. En l'occurrence, l'enquête, elle ne porte pas sur le nombre de jours individuels non travaillés, mais elle demande donc aux acteurs des établissements, des entreprises, s'il y a eu un conflit ou pas au cours des 3 dernières années. Autrement dit, tout ce dont on va parler ensuite, ça va être des établissements conflictuels, hein, des établissements qui ont connu des conflits, grèves, pétitions, manifestations, etc. Mais autrement dit, là, j'insiste là-dessus, c'est qu'on ne parle plus de journées individuelles non travaillées qu'on agrège, mais d'établissements conflictuels. L'ordre de grandeur change aussi à cause de ça.
Peut-être avant d'exposer les raisons de ces transformations, des passages de conflits peut-être un peu plus longs vers des conflits plus courts ou d'autres formes de conflits que ceux de plusieurs, qui consistent à faire grève pendant plusieurs jours. On peut peut-être revenir sur un point encore un peu général, c'est quelle est la situation de la France en regard de ce qui se passe un peu à l'étranger, parce qu'on sait qu'on a un discours médiatique assez développé sur le fait que la France est le pays de la grève. Quoi,
et gros. Du fromage.
Voilà, donc est-ce qu'on mange du fromage pendant les grèves ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que ça contredit un peu ce par quoi on a commencé. Hein, y a un déclin des conflits et en même temps, on n'arrête pas de dire que la France est le pays des grèves. Hein, donc effectivement, selon les conjonctures politiques en particulier, on va mettre l'accent sur l'une de ces deux dimensions, la France... pays de gréviculteurs, je reprends un terme que des journalistes ont employé, ou la France, pays complètement apathique, où il n'y a plus de conflits, plus d'ouvriers, etc. Donc on voit bien déjà, en reprenant ces deux images, ces deux stéréotypes, que la réalité, évidemment, elle est bien loin de ce type de stéréotypes-là. Alors concernant la particularité de la France, en réalité, elle est notablement à relativiser. Hein, si on s'appuie sur donc les JINT, même si je viens d'expliquer qu'on pouvait largement les critiquer, en tout cas à partir des années 90, il est clair que les tendances qu'elles décrivent peuvent être sujettes à caution. Il n'en reste pas moins que si on prend ce type d'indicateur et qu'on le compare avec celui qu'on peut construire de manière plus ou moins équivalente, hein, parce que c'est très compliqué de comparer avec les autres pays, au sein de l'Union européenne, la France, elle est plutôt dans la moyenne, plutôt même dans la moyenne basse, du nombre de conflits, si on s'appuie sur ce premier indicateur, à côté d'autres pays comme l'Espagne, par exemple, l'Italie, l'Autriche, la Norvège, la Hongrie, la Finlande, qui présentent des journées non travaillées pour faire de grève beaucoup plus élevées que la France. Hein, donc là-dessus, très clairement, il faut relativiser cette idée d'une France grévicultrice comparée aux autres pays.
Mais du coup, c'est assez étonnant parce que effectivement, on voit ça dans la presse étrangère. Et alors, qu'est-ce qui donne cette image-là ? C'est la capacité des grands services publics à se mobiliser. Qu'est-ce qui donne cette image-là ?
Alors effectivement, il y a peut-être une particularité des conflits en France quand même, c'est que de plus en plus, ils sont menés. Et là aussi, ça s'appuie sur un sens commun un peu médiatique largement répandu. Il serait mené par les agents des services publics, cheminots, éducation nationale, pilotes d'avion, l'actualité le démontre encore. Et donc, ce seraient ces catégories-là qui auraient un pouvoir de nuisance élevé, hein, notamment dans le transport, par exemple, qui trusteraient un peu cette conflictualité et qui la manifesteraient de manière bruyante, de manière visible, en particulier par des grandes manifestations ou des mouvements durs, longs, etc. Alors, il est vrai que la part des établissements de la fonction publique parmi l'ensemble des établissements qui sont en grève, cette part, elle a tendance à s'accroître. Hein. Effectivement, ceux qui font grève, c'est plutôt plus souvent des fonctionnaires ou des agents de ces services. Pour autant, l'enquête réponse sur laquelle on s'appuie, elle porte sur l'ensemble des établissements de plus de 20 salariés du secteur marchand. Donc on a exclu effectivement la fonction publique. L'éducation nationale, par exemple, ne fait pas partie du champ et donc des chiffres que je vais évoquer ensuite. Mais il y a tout un tas d'entreprises qui ont été privatisées et qui sont maintenant dans le champ. Je pense à France Télécom, par exemple. Il y a aussi des entreprises qui sont encore publiques, mais qui sont dans le champ de l'enquête, hein, par exemple La Poste. Autrement dit, les chiffres sur lesquels on s'appuie, ils concernent principalement le secteur privé. Et il montre surtout que dans le secteur privé, il y a une augmentation de la conflictualité qui ne se fait pas forcément au détriment de celle de la fonction publique, mais en tout cas qu'on avait eu tendance à oublier ou à recouvrir de celle menée par ces agents du service public.
Alors, peut-être pour finir de dresser le tableau, on peut quand même dire deux mots sur les enjeux politiques qu'il peut y avoir à travers la reconnaissance de l'existence ou pas de conflits dans le travail, et que, évidemment, moins il y en aurait, plus ça pourrait servir certaines catégories politiques.
Oui, alors de ce point de vue-là, on peut répondre en distinguant peut-être deux dimensions. Il y aurait d'abord la dimension de la reconnaissance du conflit dans l'établissement lui-même. Hein, et là, l'enquête, en permettant le croisement des points de vue, hein, donc en recueillant des données auprès des RH ou des patrons ou des dirigeants d'entreprise, mais aussi auprès des représentants du personnel et des salariés, eh bien, elle permet de montrer que définir ce que c'est qu'un conflit, reconnaître qu'il y a eu un conflit dans l'établissement, c'est pas quelque chose de neutre, c'est pas quelque chose qui va de soi et qui est évident du tout, et qu'au contraire, c'est un enjeu de lutte en soi-même que de dire qu'il y a eu conflit ou pas. Hein, en croisant, par exemple, le point de vue de chacun de ces acteurs, l'enquête montre que, ils sont absolument pas d'accord dans chaque établissement sur le fait de déclarer qu'il y a eu un conflit, par exemple, de tel ou tel type, au cours des trois dernières années. Hein, alors, on peut comprendre ça. On peut imaginer, par exemple, que ça résulterait d'un problème d'information. Un DRH d'un grand groupe n'est pas forcément au courant de la pétition qui a été initiée dans un des services. Hein, un syndicaliste, au contraire, il va plutôt éventuellement avoir tendance à faire état de toutes ces micro-conflictualités qui passent par des manifestations, qui passent par des pétitions. Et donc, on pourrait expliquer ainsi le décalage qu'il y a entre le pourcentage d'établissements conflictuels déclarés par les directions et celui déclaré par les syndicats, puisqu'il y a un décalage assez important hein, qui est de 16 points quand même, hein, en termes de pourcentage. En même temps, cette explication en termes d'asymétrie d'information, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait un des deux acteurs qui serait moins souvent au courant, eh bien, elle ne tient pas vraiment. Hein. Si on examine bien les choses, on s'aperçoit que, par exemple, dans les cas des conflits a priori les plus visibles, les grèves de plus de deux jours, eh bien, c'est pas là où les désaccords sont les moins fréquents. Bien au contraire. Ils sont plus importants lorsque les conflits sont longs, par exemple, que lorsque on a affaire à des débrayages ou des grèves de moins de deux jours, où on pourrait penser que cette hypothèse de manque d'information porterait davantage. Hein, donc, autrement dit, ce que ça veut dire très clairement, c'est que les acteurs n'ont pas le même intérêt à reconnaître, à déclarer, à reconnaître qu'il y a eu un conflit ou pas dans l'établissement. Donc ça, ce serait un niveau politique de l'établissement, on pourrait dire. Le conflit, c'est encore un enjeu de lutte. Hein. Évidemment, pour un DRH, on peut avoir intérêt à dire il n'y a pas de conflit, tout est calme, mon travail est de les prévenir, donc je ne vais pas forcément les reconnaître. Pour un syndicaliste, à l'inverse, montrer qu'il est actif, montrer qu'il pourrait avoir tendance à le déclarer plus davantage. De ce point de vue-là, le point de vue des salariés est intéressant parce qu'il est un peu entre les deux acteurs. Hein. En particulier, lorsqu'on distingue les formes avec ou sans arrêt de travail, on remarque que les salariés sont plutôt d'accord avec les représentants du personnel en matière de conflits avec arrêt de travail. Mais en ce qui concerne les formes de conflits sans arrêt de travail, donc refus d'heures supplémentaires, pétitions, manifestations pour l'essentiel, eh bien, ils sont plus critiques concernant le point de vue des représentants du personnel, justement. Alors, il y a un deuxième niveau auquel on peut répondre à cette question, c'est qu'effectivement, dire que les conflits ne sont pas atones, qu'ils existent encore, que la conflictualité existe en France, c'est assez important parce que ça peut avoir des impacts politiques, à mon sens. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait cet ouvrage et qu'on a cherché à le publier dans une maison d'édition où le bouquin n'est pas trop cher et il peut être lu assez facilement, il n'est pas très long. Voilà, c'est aussi parce qu'on souhaitait diffuser vraiment cette idée que les conflits existent encore, qu'ils portent, qu'ils ont une réalité importante en France. Et évidemment, ça peut changer les cadres de perception de la part des salariés concernant la possibilité ou non de résister, par exemple, à des changements qu'ils ne souhaitent pas ou auxquels ils souhaitent résister.
d'entendre les gossips du rock lesbien transgenre à moustache. Et on est toujours dans les oreilles loin du front. Alors Pierre, tu voulais revenir un peu sur le positionnement syndical par rapport à ces conflits.
Ouais, en même temps qu'on s'interroge sur la question de l'évolution des conflits dans le monde du travail, peut-être qu'il faut évidemment mettre en parallèle l'évolution du syndicalisme au cours de ces 20 ou 30 des dernières années. Cette désaffection des syndicats qui est affirmée sans cesse, d'abord qu'est-ce qu'il en est concrètement, mais aussi est-ce qu'il n'y a pas un glissement d'une part croissante des appareils syndicaux vers en gros des formes de plus accentuées de dialogue social, voire de co-gestion.
Oui, alors concernant effectivement l'importance des syndicats, le lien entre syndicats et conflits, hein, qui est un peu un lien qu'on a toujours tendance à voir de manière un peu mécanique. Alors effectivement, l'approche statistique permettrait de dire qu'il y a un lien un peu mécanique, c'est-à-dire qu'en gros, là où il y a des syndicats, eh bien effectivement, souvent, il y a du conflit. En tout cas, les directions et les représentants du personnel le déclarent beaucoup plus souvent. Autrement dit, contrairement, ça va aussi un peu à l'encontre hein, de cette première thèse qui dirait les syndicats, ils se sont complètement institutionnalisés, intégrés au jeu et ce sont plus des acteurs du conflit. Maintenant, les conflits, c'est uniquement des formes individuelles, souterraines et hors syndicats. Très clairement, ici, il faut réaffirmer l'importance de la médiation syndicale dans la possibilité d'éclosion des conflits ou non, même si, évidemment, ça ne suffit pas de dire ça. D'une part parce que effectivement le syndicalisme c'est plutôt affaibli en tout cas en termes d'adhérents, en termes de militants, même si au cours des 30 dernières années il a notablement renforcé son pouvoir institutionnel via tout un tas de lois qui ont constamment incité à négocier par exemple avec les syndicats pour s'appliquer, je pense par exemple aux 35 heures. Donc si on fait une loi où on demande aux gens de négocier, il faut bien qu'il y ait quelque chose à négocier et des acteurs pour négocier. Ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'il y a eu dans les années 90 une petite remontée un peu hein, du nombre d'adhérents et puis bon, qui s'est stabilisé, qui rediminue un peu. La France reste un pays absolument exceptionnel de ce point de vue-là, avec à peu près 4% de salariés dans le privé qui sont syndiqués. C'est vraiment un taux absolument très étonnant pour tous les observateurs étrangers en France. Ce taux, cependant, d'adhésion, il faut largement le nuancer avec ce pouvoir institutionnel assez fort qu'ont les syndicats en France. Alors, pour en revenir à cette idée de présence syndicale, donc, c'est un facteur nécessaire, mais pas suffisant. Et on a essayé de le montrer, par exemple, en s'intéressant aux pratiques syndicales. L'enquête, par exemple, pose tout un tas de questions sur l'existence ou pas de pratiques de mobilisation, d'information, de pratiques quotidiennes qu'exercent les délégués syndicaux dans les entreprises. Est-ce qu'ils font des tracts? Est-ce qu'ils font des AG? Est-ce qu'ils affichent? Voilà, tout un tas de questions comme ça qu'on a regroupé un peu dans une forme qu'on a construite d'indicateurs de pratiques syndicales existantes ou non. Parce que cette institutionnalisation, eh bien, elle se paye aussi par le fait que de plus en plus, effectivement, les syndicalistes sont pris dans des réunions de négociation, des réunions d'information, plein de choses qui font qu'ils peuvent s'éloigner du terrain et du coup ne pas forcément être aptes à opérer ce travail de médiation des revendications, de construire des revendications individuelles en des revendications collectives qui ensuite éventuellement débouchent sur des formes de conflits. On a donc construit un indicateur de pratique et ici très clairement, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment il est corrélé à l'existence de conflits, autrement dit là où les syndicalistes exercent tous ces types de pratiques, il y a plus souvent des conflits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a surtout des conflits avec arrêt de travail. Hein, autrement dit, cette médiation syndicale, ce travail quotidien de la part des syndicalistes pour organiser les salariés, pour recueillir leurs doléances, les transformer en revendications collectives à l'égard de l'employeur, eh bien, elle joue fortement sur leur capacité, la capacité des salariés, à se mettre en grève, ou en débrayage, mais en tout cas à faire des arrêts de travail, à affronter peut-être directement l'employeur. Alors que même si ces pratiques sont faibles, il y a quand même une conflictualité sans arrêt de travail qui reste à peu près identique. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça montre que là où les salariés peuvent affronter peut-être plus directement l'employeur, en s'arrêtant de travailler, autrement dit, eh bien c'est là où il y a des syndicats. C'est parce qu'ils font ce travail, pas simplement parce qu'ils sont présents, mais parce qu'ils font ce travail. Concernant le deuxième aspect de votre question, qui concerne un peu hein, cette idée de dialogue social, qui effectivement est mis à toutes les sauces, c'est vraiment une espèce, c'est là aussi un stéréotype, un sens commun extrêmement répandu, mais qui se manifeste par des dispositions. Hein. Il y a une loi, par exemple, en 2007, qui a été votée, qui dit maintenant le Parlement ne prendra une loi dans le domaine du travail qu'après qu'il y ait eu une négociation et éventuellement accord de la part des partenaires sociaux. Moi, je mets des guillemets à partenaires sociaux. Ils ne sont pas forcément partenaires. Et cette loi, bon, on a bien vu que depuis un an et demi, elle est systématiquement bafouée, que ce soit cet été pour absolument pas reprendre ce que les partenaires sociaux avaient négocié concernant le temps de travail. Hein, donc c'est l'enterrement, la fin des 35 heures quasi définitives qui s'est déroulée cet été. Que ce soit aussi concernant les dernières dispositions, là, concernant les pilotes par exemple. Un des problèmes, c'est que y a une disposition législative qui est prise sans que du tout les organisations syndicales et patronales aient été consultées auparavant. Ah, donc bon, d'une part, c'est quelque chose qui est largement mis en avant, mais dans les faits, assez contredit par les pratiques du gouvernement depuis 2-3 ans. Et puis d'autre part, cette idée de dialogue social, effectivement, elle pourrait laisser penser que les syndicalistes s'investissent énormément dans la gestion, dans la négociation d'accords, au détriment éventuellement de la mobilisation et le fait de porter des conflits. Ce qui est très intéressant avec l'enquête réponse, et ici on tord le cou un peu à une idée reçue, c'est d'opposer négociation et conflit. Hein. On dirait grâce à ce dialogue social modernisé, avec des acteurs enfin raisonnables et enfin adultes, eh bien on diminuerait cette gréviculture française qui fait qu'on commence par se mettre en grève et après on négocie. Hein, ce qui est un peu le point de vue habituel du sens commun. L'enquête, elle montre très clairement que c'est là où on négocie qu'il y a du conflit. Et inversement, c'est là où il y a du conflit qu'on négocie. Hein, puisqu'évidemment, c'est un peu une histoire de poulet et de l'œuf, ces deux histoires. Là où il y a de la négociation, eh bien, il y a du grain à moudre, il y a des choses qui se discutent. Donc éventuellement, il y a un rapport de force qui peut se construire et déboucher sous la forme d'un conflit, avec ou sans arrêt de travail. Et là où il y a du conflit, plus ou moins fort, avec ou sans arrêt de travail de nouveau, eh bien, la négociation est un moyen de résoudre, au moins provisoirement, ces conflits. Autrement dit, conflit et négociation sont deux formes sociales extrêmement proches et qu'il faut mettre sur un continuum plutôt qu'il ne faut les opposer. Hein, donc ça, c'est aussi une manière de tordre le cou un peu à cette idée que grâce à la négociation, on va pacifier les relations de travail, on va faire diminuer les conflits qui seraient forcément dommageables dans le domaine du travail.
Peut-être pour rebondir sur la question de Pierre, bon, j'imagine que Pierre, tu avais en tête la position de l'appareil central, notamment de la CFDT, hein, qui se revendique partie prenante de ce nouveau dialogue social. Est-ce qu'au travers de vos enquêtes, celles que vous appuyez sur les enquêtes statistiques, mais peut-être aussi avec des contacts plus directs dans les entreprises, est-ce que vous pouvez dire que peut-être à un niveau local, vous ne retrouvez pas forcément les prises de position nationales, quand bien même on sait qu'à la CFDT, il y a eu, sinon des purges, en tout cas, ils se sont débarrassés d'une partie d'individus, voire de collectifs qui s'opposaient à la ligne de la direction. Est-ce qu'au niveau local, vous voyez d'autres choses apparaître ?
Alors, pour rester sur le niveau statistique, clairement, lorsqu'il y a des délégués syndicaux de la CGT, il y a plus souvent du conflit que lorsqu'il s'agit de délégués syndicaux d'autres confédérations. Après, effectivement, l'enquête sur laquelle on s'appuie, c'est principalement des chiffres, mais aussi des monographies. On est effectivement allé voir dans une douzaine d'entreprises les acteurs du côté employeur et du côté salarié. Et on a donc essayé d'aller un peu plus loin que ce qu'ils pouvaient dire simplement dans le questionnaire en les interrogeant sur l'histoire un peu de l'entreprise et les conflits qui avaient pu s'y dérouler. Et là, effectivement, il y a tout un tas d'endroits où ce type d'identification entre une CFDT qui, par exemple, serait donc engagée dans le dialogue social, plus réservée à l'égard de mobilisation et de conflits, eh bien, on trouve des situations absolument inverses. Je pense, par exemple, à une grande entreprise de boissons dans laquelle on avait une CGT extrêmement dominante qui, dans les faits, était... Non. Alors c'est anonyme, donc évidemment je vous le dirai pas. Mais c'est pas Paul Ricard. Non, je suis allé voir Paul Ricard dans des enquêtes antérieures, mais là il s'agissait pas de cette entreprise là. Donc, effectivement dans cette entreprise on a une CGT très très forte qui de fait est engagée dans une forme de co-gestion avec l'employeur qui négocie extrêmement souvent, qui est assez relativement prudente dans la manière de déclencher les conflits, même si ça lui arrive quand même, dans le cadre de négociations, d'appeler une manifestation dans la cour de l'usine, d'appeler un débrayage assez court, etc. Mais après un épisode il y a une quinzaine d'années où il y a eu un conflit très très dur, cette CGT très dominante, elle est un peu plus prudente et elle emploie des armes, disons, moins franches, moins directement tournées contre l'employeur, en cherchant davantage des solutions via la négociation. Et à l'inverse, on avait une CFDT donc minoritaire dans cette entreprise qui était beaucoup plus bout en train, beaucoup plus critique et qui constamment essayait de mobiliser les salariés, critiquait aussi cette co-gestion entre guillemets. Le terme est évidemment largement abusif, on n'est pas du tout dans un système allemand. Mais donc en fait, c'est simplement pour dire que les positionnements syndicaux, ils sont largement dépendants des contextes locaux. Hein, évidemment, ici, c'est aussi parce que la CGT est très dominante qu'elle adopte ce type de pratique, et la CFDT très minoritaire et donc ayant peu de poids, qu'elle peut avoir un discours un peu jusqu'au boutiste. Autrement dit, évidemment, les étiquettes syndicales, elles expliquent certaines choses, mais localement, c'est beaucoup plus les configurations locales, les rapports de force existants entre les confédérations et entre les organisations syndicales et l'employeur qui sont à prendre en compte.
Alors, il y a une autre grande question sur laquelle on peut s'interroger, c'est pourquoi on fait grève, pourquoi est-ce qu'il y a des conflits, est-ce qu'on voit évoluer les motifs pour lesquels on se met en grève au cours de ces dernières années? Est-ce que la question du salaire reste toujours aussi centrale, la question des conditions de travail, est-ce qu'on a quelque chose de mouvant là-dessus?
Alors effectivement, là aussi on peut partir d'images reçues un peu. On pouvait considérer finalement que si on accepte un peu ces conflits récurrents dans le domaine des transports, de la fonction publique, l'éducation, etc., eh bien, il ne restait finalement peut-être plus que des conflits sur l'emploi, des conflits défensifs de la part de salariés qui pouvaient être désespérés. Je pense ici évidemment à l'affaire Sellatex qui s'est déroulée en 2000, où des ouvriers avaient menacé, et même l'avaient fait en fait, avaient déversé tout un tas de produits toxiques dans la Meuse. Il y a quelques conflits comme ça qui ont été très très médiatisés, puisque c'est ce type de conflit qui intéresse beaucoup les médias. On a une dramaturgie ici, on a des gens assez désespérés parce qu'ils vont perdre leur emploi dans des régions sinistrées en termes d'emploi, etc. Donc on avait tendance un peu à penser que c'était plus que les seuls conflits qui restaient dans le privé, c'est les conflits qui portaient sur l'emploi. Or, ce que montre très clairement l'enquête, c'est que, les conflits sur les salaires restent prédominants, mais surtout, ils ont repris leur première place de très loin entre 1998 et 2004, donc bien avant même l'année 2008. L'année 2008, c'est l'année du retour des questions du pouvoir d'achat et des conflits sur les salaires. Notamment au printemps 2008, il y a eu tout un tas d'articles de journaux là-dessus. En fait, on peut relier ces conflits, pas forcément à une augmentation en réalité, mais beaucoup plus à une question d'agenda politique. On était à peu près un an après l'élection du président du pouvoir d'achat, et on pouvait se demander si les promesses étaient tenues ou pas, et elles semblaient ne pas l'être, d'où l'insistance des médias, des journalistes, à braquer le projecteur sur ce type de conflits salariaux. Autrement dit, je ne sais pas s'ils ont vraiment augmenté durant l'année 2008, ces conflits salariaux, mais en tout cas, ils étaient remis au goût du jour à cause de cet agenda politique. Et c'est là aussi cet agenda un peu médiatique, politique, qui avait laissé penser que les seuls conflits qui restaient, c'était des conflits sur l'emploi, des conflits désespérés. L'enquête, elle montre qu'il y a une conflictualité ordinaire qui se déroule et qui concerne en particulier donc les salaires. Et considérablement, entre 1998 et 2004, la part des conflits portant sur les salaires augmente considérablement. Mais autre aspect intéressant, également sur le temps de travail, évidemment. Entre 1998, on est tout au début de la mise en place des 35 heures. Donc l'enquête, elle porte sur les années 96, 97, 98. Donc on est vraiment au début. Les JINT eux-mêmes ont traduit une remontée des conflits en 99 et en 2000, où en fait, c'est à ce moment-là qu'on met vraiment en place les 35 heures. Mais dans les résultats de l'enquête 2005, donc sur les années 2002, 2003, 2004, là aussi, on voit que la part des conflits portant sur le temps de travail, eh bien, elle double presque par rapport à la période précédente. Et puis troisième enseignement, c'est que il y a tout un tas de conflits qui portent sur les climats des relations de travail ou les conditions de travail qu'on peut mettre un peu ensemble, puisqu'il s'agit un peu souvent des mêmes choses. Et là aussi, leur part augmente. Et on peut faire là aussi le lien avec le thème de la souffrance au travail, le thème du harcèlement moral, le thème du harcèlement au travail, qui a émergé au début des années 2000 et qu'on voit aussi dans cette conflictualité ordinaire qui porte sur les climats des relations de travail.
Alors on peut peut-être s'attarder un petit peu sur ce dernier point, sur les relations au travail, sont généralement liées à l'évolution des formes de management, et puis d'un seul coup ces mots miracles de souffrance, de harcèlement, avec la difficulté de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, tellement c'est flou. Ça se traduit par quel type de conflit quand on est sur ces problématiques-là ?
Alors, a priori, une des critiques que les sociologues portent souvent à la manière dont on a effectivement pu saisir ces questions de harcèlement ou de souffrance au travail, c'est qu'elles ont tendance à individualiser, en fait, hein, les choses. Alors, les sociologues, évidemment, professionnellement, on pourrait dire, par réflexe, en quelque sorte, essaient de comprendre si vraiment il y a individualisation ou pas un phénomène collectif qui se manifesterait de cette manière-là. Autrement dit, je peux répondre à votre question, en fait, en évoquant la diversité des formes de conflits individuels et collectives, hein, qui est une autre partie importante de notre étude, où on a essayé de s'intéresser aussi à ces formes de conflits individuels. L'enquête réponse, elle porte pas simplement sur les conflits collectifs, tels qu'on en a parlé jusqu'ici, mais elle saisit aussi des formes de conflits individuels, ou en tout cas des indices qui peuvent en révéler la présence. Je pense par exemple évidemment au conflit prud'homo. Le conflit prud'homal, c'est un conflit d'abord individuel qui résulte quasi toujours d'un licenciement. C'est une forme individuelle de conflictualité. Mais l'enquête, elle permet aussi de saisir d'autres formes de conflits individuels sous la forme des sanctions que font peser les employeurs sur les salariés. On peut considérer que c'est un indice d'une conflictualité individuelle latente qui se manifeste sous la forme de sanctions. On peut aussi la saisir sous la forme des tensions qu'expriment les salariés entre eux ou vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique. On pose ce type de questions aux représentants du personnel et aux employeurs. Et enfin, on peut la saisir à travers la question de l'absentéisme, qui là aussi est une forme individuelle, mais qu'on peut considérer comme la trace ou l'indice de problèmes individuels importants dans le domaine du travail, sinon d'une forme de conflit direct, puisqu'il s'agit de simplement pas venir au travail. Alors de ce point de vue-là, l'enquête, elle montre là aussi que ces formes de conflits individuels augmentent, en particulier donc les recours aux prud'hommes. Alors les recours aux prud'hommes, c'est un peu compliqué, parce que par ailleurs, d'autres enquêtes sur les prud'hommes, qui s'intéressent donc au nombre de procédures prud'homales, montrent qu'il y a un recul assez fort du nombre de recours prud'homaux par les salariés entre 1993 et 2007. Par exemple, hein, donc c'est les travaux de Evelyne Cerverin que je cite ici, le nombre de recours au prud'homme a diminué de 10% au fond et plus de 20% en référé. Donc c'est une baisse assez significative du nombre de recours au prud'homme. L'enquête, en même temps, elle montre, elle, que le nombre d'établissements concernés par un prud'homme augmente. Hein, donc les deux choses ne sont pas contradictoires, même si ça pose un peu question, mais les deux choses ne sont pas contradictoires. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Dans un cas, c'est le nombre de recours prud'homaux, et dans l'autre, le nombre d'établissements concernés par un prud'homme. Et là, les employeurs disent plus souvent rencontrer donc des prud'hommes. Enfin, il y a plus d'employeurs qui disent rencontrer au moins un prud'homme dans leur établissement. Concernant les deux autres indices que j'ai évoqués, les questions des sanctions, là aussi, elles augmentent de manière assez importante. Hein. On passe de 66% des établissements dans lesquels il y a eu des sanctions à 72% entre les deux périodes de l'enquête, hein, je rappelle, 98 et 2004. Et enfin, concernant l'absentéisme, le questionnaire pose la question de manière un peu détournée, puisqu'il demande aux employeurs en particulier si l'absentéisme leur pose problème. Donc on identifie directement un problème, à défaut d'un conflit ouvert. Et là aussi, le pourcentage d'établissements qui disent rencontrer l'absentéisme comme un problème augmente assez considérablement entre les deux périodes de l'enquête. Autrement dit, il y a une conflictualité souterraine, il y a une conflictualité individuelle, une conflictualité non organisée, qui manifestement augmente. En tout cas, c'est ce que nous permet de dire l'enquête.
Mais justement, c'est là où ça paraît, parce que justement, ce recours au prud'homme ou l'absentéisme ou tout ça, c'est juste, on est dans des relations purement individuelles. Enfin, on n'est plus dans du collectif qui se défend face à un employeur, face à un petit chef, tout ça. Comment vous faites le lien entre ces stratégies individuelles de survie au travail et des formes organisées de conflits pour obtenir gain de cause?
Alors justement, on a beaucoup travaillé sur la manière dont pouvaient s'articuler ces formes individuelles et ces formes collectives. Hein, une des questions pouvant être, est-ce que les unes se substituent aux autres, hein, donc les formes collectives, plus exactement, puisque j'ai montré que les formes collectives augmentent aussi, mais ce qui augmente, c'est surtout les formes sans arrêt de travail. Hein, les formes avec arrêt de travail, elles augmentent, mais ce qui augmente surtout, de manière importante, c'est les formes avec arrêt de travail. Je peux quand même redonner des chiffres que j'ai pas donnés jusqu'ici, qui sont tout simplement le nombre d'établissements a priori conflictuels, hein, pour donner un ordre de grandeur quand même aux auditeurs. En 98, il y a à peu près deux établissements sur 10 qui disent avoir rencontré au moins un conflit dans les 3 dernières années. En 2004, ils sont 3 sur 10. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas énorme, mais en fait, statistiquement, c'est quand même des variations assez importantes pour qui fait des statistiques. On a un accroissement assez significatif. Donc, je reviens sur la question de l'articulation entre ces formes de conflits individuels et collectifs, ces formes de conflits avec et sans arrêt de travail. Hein. C'est de cette manière-là qu'on a essayé de travailler pour saisir cette transformation de la conflictualité au travail. Alors, de ce point de vue-là, les choses sont assez complexes, puisqu'on voit qu'on a plusieurs dimensions qui se mêlent les unes avec les autres. Mais il est clair que l'hypothèse de la substitution entre ces formes de conflits, on a essayé de la tester statistiquement et puis aussi en allant sur le terrain, en ciblant par exemple des entreprises dans lesquelles toutes les conditions étaient réunies, par exemple une forme de conflictualité individuelle, pour que débouche éventuellement une conflictualité collective, mais elle n'avait pas été dite par les personnes, donc on se demandait pourquoi. Hein, donc on a mêlé un peu ces deux registres. Et l'hypothèse de la substitution, même si on ne peut pas l'écarter complètement, puisqu'il y a des contextes où probablement elle aurait une validité, eh bien on a plutôt tendance à la rejeter malgré tout, et donc à insister sur l'articulation entre ces différentes formes de conflits. Très clairement, ce qu'on montre, c'est que on peut distinguer en quelque sorte trois espaces de la conflictualité. On aurait d'abord un espace dans lequel il n'y a pas de conflit, ni individuel, ni collectif. Et donc, voilà, ça désignerait tout un tas d'établissements qu'on trouve plutôt dans certains secteurs plutôt que dans d'autres, hein, par exemple dans le commerce ou la construction. Et on pourrait opposer à ce premier espace un espace dans lequel il y a du conflit collectif, et en particulier du conflit collectif avec arrêt de travail. Et ici, on est dans des grands établissements, on est dans l'industrie, on est dans la banque. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que l'enquête montre que se dégage un troisième espace, hein, qui est peut-être ça la nouveauté, en fait, qui est peut-être ça qui traduit cette transformation de la conflictualité, dans lequel s'articulent de manière assez étroite, semble-t-il, formes de conflits sans arrêt de travail, hein, donc des pétitions, des manifestations assez récurrentes, ou en tout cas qui sont signalées par ces établissements, avec des formes de conflits individuels. Donc recours prud'homo, sanctions nombreuses, tensions importantes, absentéisme qui pose beaucoup de problèmes. Hein, donc c'est peut-être ça la nouveauté, ou en tout cas c'est là où manifestement la conflictualité augmente le plus, c'est dans ce type d'établissement qui combine, hein, dans lequel s'articulent ces deux formes de conflits individuels et collectifs, mais collectifs plutôt sans arrêt de travail.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah, 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 ah oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux.
Laïra, laïra, yeah. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Laïra, laïra, yeah. Merci patron.
Merci patron.
Un jour Dieu vous le rendra.
Oui, c'est ça.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah, 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 ah oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons.
À vous le plaisir de travailler pour nous.
Allez, on pouvait pas échapper à celle-là. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et Cédric, tu voulais revenir sur la question de travailler plus pour gagner plus.
Et oui, donc on a bien écouté ce que tu nous as raconté, Jérôme. Et tu nous disais tout à l'heure qu'une des formes de conflit qui augmentait le plus, c'était celle contre les heures sup. Alors évidemment, ça va un peu à l'encontre du discours politique actuel, qui voudrait que les salariés recherchent des heures sup pour augmenter leur pouvoir d'achat. Est-ce que tu peux peut-être développer un peu ce thème-là, puisque ça rejoint aussi une autre question d'actualité qui est celle de l'application, de la non-application des 35 heures.
Oui, alors en fait, j'en ai pas trop parlé, mais dans les formes de conflits sans arrêt de travail, il y en a une qui augmente considérablement, c'est-à-dire qu'elle triple dans le nombre d'établissements concernés, ce sont les refus d'heures supplémentaires, ces fameux refus d'heures supplémentaires qui tirent bien souvent dans les statistiques un peu les chiffres vers le haut, justement. Hein, on passe à peu près de 3% des établissements qui déclarent connaître ce problème en 98 à presque 10% en 2004. Alors, le refus d'heures supplémentaires, c'est une forme assez compliquée. Est-ce que c'est vraiment une forme collective ou est-ce que c'est une forme individuelle ? C'est typiquement une forme de protestation, une forme de conflit à la lisière de ces deux dimensions. On a essayé d'aller explorer un peu plus loin en allant dans des entreprises qui déclaraient de nombreuses refus d'heures supplémentaires. Alors, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai vu une entreprise dans laquelle on avait bien les deux formes, individuelle et collective. La forme collective, elle s'est manifestée à l'occasion du lundi de Pentecôte, qu'on a demandé aux salariés de travailler, après donc, la loi Raffarin, après la canicule 2003 et la journée de solidarité qu'on a instituée. Et donc là, très clairement, les syndicats s'opposaient tout bêtement à la récupération de ce lundi, et en tout cas, surtout, la forme qu'elle avait prise, c'est-à-dire qu'on demandait tout bêtement aux salariés de venir travailler ce lundi de Pentecôte, et ils souhaitaient, eux, éventuellement venir travailler un peu plus, quelques minutes chaque jour pour, au total, finalement, le travailler bien gratuitement en plus, comme c'était prévu, mais conserver leur lundi de Pentecôte qu'ils souhaitaient passer en famille. De ce point de vue-là, les salariés ont organisé la première année une grève tournante, une grève perlée, extrêmement astucieuse, dans laquelle des salariés ciblés se mettaient en grève une demi-heure, trois quarts d'heure, et à tour de rôle, bloquant l'intégralité quasiment de la production de cette manière-là. Pour y faire face, la direction a donc fait travailler un peu ses cadres et a aussi recouru aux intérimaires, mais elle n'a pas absolument pas cédé. L'année suivante, les salariés, enfin les organisations syndicales, ont organisé une journée de grève avec piquet de grève, etc. Et encore en 2006 et encore en 2007. En 2008, néanmoins, la direction a contourné le problème en posant un jour de modulation, c'est-à-dire un jour non travaillé, ce fameux lundi de Pentecôte. C'est-à-dire qu'elle elle résolvait le problème sans battre en retraite complètement. En même temps, ces refus d'heures supplémentaires, toujours dans cette entreprise, ils résultaient aussi de pratiques individuelles qui, prises ensemble, constituaient en réalité une pratique collective. Tout simplement, on avait affaire à des ouvrières qui constituaient l'essentiel du personnel de production de cette usine, relativement bien payé pour le secteur d'emploi, même si on avait affaire à des ouvrières non qualifiées, donc on reste quand même dans des salaires très très bas, mais qui souhaitaient garder du temps, qui n'acceptaient pas de faire tout un tas d'heures supplémentaires qu'on leur demandait de façon plus ou moins régulière pour faire face un peu à l'imprévisibilité des commandes. Et donc, elles voulaient récupérer systématiquement le temps supplémentaire qu'elles travaillaient, alors que la direction leur proposait de le payer. Donc on est typiquement dans la problématique du travailler plus pour gagner plus. Ici, les ouvrières acceptaient de faire ces heures supplémentaires, mais à condition qu'elles les récupèrent en temps et non pas qu'elles se les fassent payer. Et c'était un comportement massif, individuel, mais qui prenait une forme collective, puisque l'entreprise ne pouvait pas tout simplement mobiliser assez de salariés pour faire face aux commandes qu'elle avait à gérer. La première année, la direction a recouru donc à des intérimaires, assez classiquement, mais on était dans une entreprise où la qualité du travail était essentielle, c'est un travail extrêmement minutieux, et en fait, la qualité du travail des intérimaires laissait largement à désirer. Et l'année suivante, la direction a tout simplement accepté de rendre chaque heure supplémentaire par des heures non travaillées, c'est-à-dire... Elle n'a pas pu imposer cette logique du travailler plus pour gagner plus. Ah, donc effectivement, ce type d'exemple, il est très intéressant dans une période où ce slogan qui a été donc inventé fin 2006, hein, pendant la campagne présidentielle, et dont on explique qu'il a été un peu, certains en tout cas, pensent qu'il a été un des éléments aussi de la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est effectivement très intéressant de montrer qu'entre 1998 et 2004 déjà, on avait des refus d'heures supplémentaires qui augmentaient le plus. C'était la forme de conflit qui augmente le plus. Alors effectivement, c'est à relier au contexte des 35 heures. Et en tout cas, ça bat un peu en brèche cette idée que tous les salariés voudraient travailler plus pour gagner plus. Au contraire, il y a tout un tas de salariés qui sont satisfaits des 35 heures et qui les défendent et qui ne souhaitent pas travailler plus pour gagner plus.
Et est-ce qu'on pourrait prévoir, presque, je sais que c'est toujours difficile de prévoir l'avenir, mais est-ce qu'on pourrait dire que les mesures donc d'abandon...
Quand on veut prévoir l'avenir, on fait des études d'économie, voilà. Pas de sociologie.
Mais on se plante quand même.
Oui, on se plante. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'avec la remise en cause complète des 35 heures et peut-être l'introduction quasiment systématique du travail du dimanche, en tout cas pour certains secteurs, notamment du commerce, que ça va peut-être ouvrir à de nouvelles formes de conflictualité en réaction à ces nouvelles mesures ?
Alors oui, bon, la prévision, c'est toujours très, très, très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que, bon, ce qu'on peut montrer, c'est qu'en tout cas, cette idée du travailler plus pour gagner plus, elle n'est pas massivement partagée par l'ensemble des salariés. Il est évident qu'il y a des salariés qui souhaitent travailler plus pour gagner plus. Et moi, en ayant travaillé sur les 35 heures auparavant, hein, entre 98 et 2004, disons, voilà, j'ai un peu travaillé sur cette période-là et la mise en place, puis le gel des 35 heures, j'ai effectivement rencontré des salariés qui regrettaient de ne pas pouvoir faire plus d'heures supplémentaires ou qui avaient vu le nombre d'heures supplémentaires habituelles qu'ils faisaient décliner à la suite de l'application des 35 heures. Il faut rappeler quand même que celui qui décide des heures supplémentaires, c'est toujours l'employeur. Hein. C'est jamais le salarié qui, même s'il souhaite en faire, c'est pas pour ça qu'il pourra en faire. Ça dépend d'abord d'une décision de l'employeur et aussi et surtout de la conjoncture économique. Et de ce point de vue-là, ce slogan, il est assez fallacieux dans une période où la croissance n'a pas été au rendez-vous depuis 2007, depuis 2006, depuis 2007. Et puis évidemment, dans la période actuelle et la crise dans laquelle on risque de s'enfoncer, enfin on commence à s'enfoncer, le slogan, il est absolument éthéré. Je veux dire, ça correspond très peu aux pratiques de fait des personnes. Alors, en même temps, la remise en cause des 35 heures, elle est assez complexe parce qu'elle se déroule principalement sur un plan juridique, en réalité. Et dans les pratiques, il n'est pas si évident que ça qu'il y ait beaucoup de choses qui aient été remises en cause. La remise en cause des 35 heures, elle a commencé dès octobre 2002, avec un décret pris par François Fillon, ministre du Travail à l'époque, qui gèle le processus. Et depuis, on essaye de le démanteler, mais toujours par la bande, sans jamais affronter directement cette norme des 35 heures, hein, que Jacques Chirac qualifiait d'acquis social le 14 juillet 2004 quand même. Et donc, on essaie toujours de passer par la bande, et en particulier en incitant les acteurs à négocier, hein, toujours cette volonté de dialogue social, et via le dialogue social, en fait, de démanteler un peu le droit du travail. Et c'est pourquoi elles ne rencontrent pas forcément des pratiques. Les pratiques, elles n'ont plutôt pas trop changé, en tout cas dans les grandes entreprises. Actuellement, il n'y a pas eu une remise en cause radicale des 35 heures. Il y a des grignotages. Le lundi de Pentecôte que j'évoquais tout à l'heure, les heures supplémentaires qu'on a rendues plus faciles, et puis aussi, par exemple, la possibilité de racheter des jours RTT qui a été institué en avril 2008 et encore étendu cet été après la loi votée encore une fois au milieu de l'été. Voilà, donc concernant les 35 heures, est-ce qu'il va y avoir plus de conflits ou pas ? J'en suis pas persuadé, tout simplement parce que les employeurs n'ont pas forcément intérêt à les remettre complètement en cause, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de boulot à proposer à leurs salariés, tout bêtement. Voilà.
Alors, peut-être l'émission va se terminer, mais peut-être on peut dire quand même deux mots, tu l'as évoqué tout à l'heure, sur le retour d'un certain nombre de conflits relatifs qui peuvent prendre des tournures assez dures, assez violentes. En gros, les conflits contre les patrons voyous, les délocalisations sauvages, les fermetures de sites parce qu'ils ne dégagent pas 15% de marge. Et qu'est-ce qu'on peut dire de je ne sais pas si c'est des nouvelles formes ou de retour de ces formes-là, avec des mobilisations qui vaillantes, quoi.
Oui, alors bon, là c'est plutôt en fait une idée reçue qu'on essayait de remettre en cause, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y avait plus que ces formes-là ou qu'il y avait un retour vraiment fréquent, important de ce type de formes. Le questionnaire réponse, hein, pour revenir un peu sur des chiffres, il posait la question, est-ce que dans le... Alors en fait, on demandait aux personnes, est-ce qu'il y a eu des conflits, différentes formes, et puis dans le cas du conflit le plus marquant, est-ce que vous pouvez répondre à tout un tas de questions concernant la durée de ce conflit, qui en était à l'initiative, etc. Et puis, est-ce qu'il y a eu des formes du type occupation de lieu de travail, occupation de lieu public, occupation du lieu de travail avec séquestration, voire menace de destruction de biens et de dommages à l'environnement. Voilà, c'est typiquement la taxe en fait qui était visitée.
Mutilation d'un des responsables de l'entreprise. Enfin, il y avait ça dans le questionnaire, c'est très complet. Hein.
C'est très complet. Ouais, la séquestration, on l'a recherchée parce qu'il y a quand même 18 DRH qui ont dit qu'ils avaient été séquestrés. Donc on a essayé d'aller les voir, d'aller les retrouver, on n'a pas réussi. Ils avaient soit quitté l'entreprise, soit les personnes évoquaient une séquestration qui avait lieu ailleurs. Enfin bon, bref, on a cherché ces situations de conflits très tendus, très durs, sans vraiment pouvoir les trouver dans notre enquête qualitative. Mais bon, pour en revenir à la menace de destruction de biens et de dommages avec l'environnement, ça a été évoqué dans 0,5% des personnes qui disent qu'il y a eu un conflit plus marquant. Donc c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement minoritaire. On a plutôt insisté sur les conflits quotidiens, ordinaires du travail, et c'est ce que permet de renseigner l'enquête, plutôt que ces conflits absolument exceptionnels, comme c'est LaTeX, voilà.
Voilà, alors l'émission tire à sa fin. Pour en savoir plus, on renvoie au livre publié aux éditions du Croquant dans la collection Savoir Agir. Alors vous êtes 5 pour ce livre.
Voilà, il faut citer tout le monde, oui.
Donc Sophie Bérou, Jean-Michel Denis, Guillaume
Desage,
Baptiste Giraud et Jérôme Pélisse qui étaient donc ce soir à nos côtés. Le bouquin s'appelle La lutte continue, les conflits du travail dans la France contemporaine et ça coûte 13,50€. C'est-à-dire que même avec les minima sociaux, en s'y mettant à plusieurs, on peut l'acheter. Voilà, merci.
Merci beaucoup à vous.
Puisqu'il n'y a plus de règles, plus de normes, plus de morale, plus de respect, plus d'autorité, puisque tout se vaut, alors tout est permis.
Allez, c'était donc Les Oreilles Loin du Front et ce soir on transformait la conflictualité du travail en émission de radio. Alors voici donc l'affiche de conflit de ce soir. On retrouvait le gréviculteur opposé à la dualisation du système d'enseignement, c'était donc évidemment Cédric. Et puis elle n'a même pas rencontré un conflit autour de la table de mixage durant 90 minutes, c'était Juliette. Voilà, c'est l'heure de chanter la même mélodie puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.